Michel Strogoff n'était pas, n'avait jamais été aveugle. On se rappelle qu'au moment du supplice, Marfa Strogoff était là, tendant les mains vers son fils. Michel Strogoff la regardait, comme mon fils pour regarder sa mère, quand c'est pour la dernière fois. Remontant à flot de son cœur à ses yeux, des larmes que sa fierté essayait en vain de retenir, s'étaient amassées sous ses paupières et, en se volatilisant sur la cornée, lui avait sauvé la vue. La couche de vapeur formée par ses larmes, s'interposant entre le sabre ardent et ses prunelles, avait suffi à annihiler l'action de la chaleur. Seule, sa mère connaissait la vérité, et c'était sur la place même de Tomsk qu'il lui avait dit à l'oreille quand, penché dans l'ombre sur elle, il la couvrait de ses baisers. On comprend dès lors que lorsqu'Ivan Ogareff avait, par une cruelle ironie, placé la lettre impériale devant ses yeux qu'il croyait éteints, Michel Strogoff avait pu lire, avait lu cette lettre qui dévoilait les odieux desseins du traître. De là, cette énergie qu'il déploya pendant la seconde partie de son voyage. De là, cette indestructible volonté d'atteindre Irkoutsk et d'en arriver à remplir de vive voix sa mission. Il savait que la ville devait être livrée. Il savait que la vie du grand-duc était menacée. Le salut du frère du tsar et de la Sibérie était donc encore dans ses mains. Une heure après, Nadia était dans les bras de son père. En même temps que les Tartares étaient refoulés, les assiégés se rendaient maîtres de l'incendie. Le 7 octobre, Irkoutsk était enfin délivré. Avec les premiers soldats russes, deux amis de Michel Strogoff étaient entrés eux aussi dans la ville. C'étaient les inséparables Blount et Jolivet. En gagnant la rive droite de l'Angara, par le barrage de glace, ils avaient pu s'échapper, ainsi que d'autres fugitifs, avant que les flammes de l'Angara eussent atteint le radeau. Ce qui avait été noté par Alcide Jolivet sur son carnet de cette façon. Failli finir comme un citron dans un bol de punch. Michel Strogoff avait été trouver Nadia et, devant son père, il lui avait dit « Nadia, je ne crois pas que Dieu, en nous mettant en présence, en nous faisant traverser ensemble de si rudes épreuves, ait voulu nous réunir autrement que pour jamais. »« Ah !» fit Nadia en tombant dans les bras de Michel Strogoff et se tournant vers Vassili Fedor. « Mon père » dit-elle toute rougissante. « Nadia, lui répondit Vassili Fedor, ma joie sera de vous appeler tous les deux mes enfants. » La cérémonie du mariage se fit à la cathédrale d'Irkoutsk. Alcide Jolivet et Harry Blount assistaient naturellement à ce mariage dont ils voulaient rendre compte à leurs lecteurs. Et le lendemain, ils partirent pour la Chine. Quelques jours après la cérémonie, Michel et Nadia Strogoff, accompagnés de Vassili Fedor, reprirent la route de l'Europe. À Omsk, la vieille Marfa les attendait dans la petite maison des Strogoff. Elle pressa dans ses bras avec passion celle qu'elle avait déjà 100 fois dans son cœur nommée sa fille. La courageuse sibérienne eut, ce jour-là, le droit de reconnaître son fils et de se dire fière de lui. Le jeune courrier, reçu par le tsar, fut attaché spécialement à sa personne et il arriva, par la suite, à une autre situation dans l'Empire. Mais ce n'est pas l'histoire de ses succès, c'est l'histoire de ses épreuves qui méritait d'être racontée.